chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour. Ben, voyez, vous avez au moins une émission en direct ce lundi de Pâques, parce que ordinairement c'est plutôt désert. Et ben, il se trouve que je suis là, que je ne suis pas en vacances. Alors voilà, nous avons avec notre ami, eh bien, à deux, là, comme ça, nous occupons les locaux pour vous essayer de vous intéresser. Voilà. Sur le thème aujourd'hui, la langue française et l'élection présidentielle de 2027. La langue française et l'élection présidentielle de 2027. Mais auparavant, je vais changer un petit peu dans mes coutumes. D'ordinaire, où je commence par le fond, les problèmes graves du jour, si vous voulez, et puis ensuite des fautes ou le bon usage, disons, du français, ou l'inverse, commence par le bon usage et je termine par les choses de fond. Mais aujourd'hui, je vais faire les deux. C'est-à-dire que je vais commencer par quelques éléments seulement du bon usage. Ensuite, je vais traiter largement le thème d'aujourd'hui, la langue française et l'élection présidentielle de 2027. Et à la fin, si j'ai terminé l'essentiel, eh bien, je vous redonnerai quelques petits éléments du bon usage de la langue française. Voilà. Alors, nous allons commencer par un constat naturellement, de l'invasion de la langue française, avec des exemples bien concrets, et puis pour essayer de ridiculiser cette mode, parce que les termes français que nous avons pour mettre en face des termes anglais, eh bien, ils sont le plus généralement, pas toujours bien sûr, mais le plus généralement, de vrais bons termes que l'on chasse alors qu'on n'a pas le droit de les chasser. Voilà. Alors, exemple. Nos pédants modernes, donc, remplacent le bon français par du globish. Ils ne disent plus « information fallacieuse », mais « fake news » ou « infox », il faut mettre. Excellente trouvaille des terminologues. Mettons un fox, ça va bien, puis c'est très court, c'est très bref, c'est même plus bref que fake news. Voilà. Expérience, savoir-faire, ils ne disent plus, hein, expérience, savoir-faire, mais expertise. Ah, ça paraît bien français en plus, alors que c'est une confusion avec l'expertise qui est l'acte qui est fait par un expert. Un expert fait une expertise, c'est pas une expérience, ça n'a rien à voir. Bon, enfin, rien à voir. Ça n'est pas le même sens, c'est tout. Voilà, donc, gardez bien expérience lorsqu'il s'agit de parler d'expérience et de savoir-faire. Et on ne dit plus portrait, description, mais profil. Là aussi, ça paraît français, alors que c'est le profile, d'où la confusion avec profil, qui est le complément de face. De face, c'est de profil. Quand vous êtes photographié de face ou de profil, bon, profil. Donc, ce n'est pas le portrait et la description. Aérodrome, piste, on ne dit plus ça, mais tarmac, enfin, ça fait tellement mieux. Voilà. Gazette, mais newsletter, je vous en prie, n'oubliez pas, gazette. Ça existe, c'est très bien, ça dit bien ce que ça veut dire, mieux que newsletter, en fait. Alors, employez-le. On ne dit plus foyer d'infection, de contagion, mais cluster. Oh, comme ça fait bien, cluster. Non, un foyer d'infection, un foyer de contagion. Hein. Voilà. On ne dit plus surmenage, épuisement, mais burn-out. Ah oui, burn-out. Surmenage, épuisement. Diapositive, mais slide. Enfin, voyons, les diapos, vous savez ce que c'est, non? Mais pas de raison de les oublier. On ne dit pas un enjeu, mais un deal. Ah ben voilà, aussi, c'est peut-être aussi l'expérience ou l'exemple, plus exactement, de notre cher Trump, qui nous aime beaucoup, comme vous le savez, qui est de plus en plus présent et qui se fait de l'argent. Voilà, les deals, c'est lui. Bon. Mais pas nous. Un comparateur, on ne dit plus un comparateur, mais un proxy. Un mouchard, mais un cookie. On ne dit plus l'arrière-plan, le recul. On considère l'arrière-plan, on prend du recul, mais le background. Reconsidérer, mais revisiter. ce qui induit une confusion, puisque revisiter, c'est faire une nouvelle visite. Reconsidérer, c'est autre chose. Vitrine, salle d'exposition, ah non, il faut mettre showroom, voilà, chers auditeurs, s'il vous plaît, rétablissez vitrine ou salle d'exposition, parce que showroom, c'est d'ailleurs, on ne sait plus si c'est une simple, voilà, simple vitrine ou une sorte d'exposition. En direct, mais en live, voilà, c'est pas en direct qui de Radio Courtoisie qui vous fera oublier en direct. Voilà, écoutez, j'arrête là, je pourrai continuer la prochaine fois, mais vous êtes déjà servis pour aujourd'hui. Alors, revenons donc au thème principal, la langue française et l'élection présidentielle de 2022. Nous devions avoir un invité. Ah oui, il m'avait promis de venir, et puis il a été empêché au dernier moment. C'était notre ami, que j'ai déjà invité 3 fois dans les 10 dernières années, qui est Nicolas Dupont-Aignan, qui se répand beaucoup dans les médias à l'heure actuelle. Il était prêt à le faire beaucoup aussi avec moi à Radio Courtoisie, mais non, il a dû renoncer. Bien, j'espère que nous le rattraperons une prochaine fois. Alors, j'ai déjà commencé à évoquer notre question d'aujourd'hui, là, avec vous. La plupart des auditeurs d'aujourd'hui savent, depuis nos émissions récentes, que le Haut Conseil international de la langue française et de la francophonie, que j'ai créé avec un président d'association communiste, hein, n'oubliez pas, Georges Gastaud, que j'ai créé donc le 18 juin 2020 pour lutter à plus haut niveau que nos associations contre l'offensive énorme que nous subissons pour remplacer le français par l'anglais. Bon, alors, le Haut Conseil international de la langue française et de la francophonie, HCILF pour les intimes, ou HC tout court, eh bien, a décidé de mener une campagne auprès des candidats à l'élection présidentielle. On vise le plus haut possible et, pour l'avenir, le plus proche possible. Voilà. Une campagne auprès des candidats à l'Élysée, qu'ils soient déclarés ou potentiels, d'ailleurs. Et auprès de personnalités accessibles, qui sont accessibles à nous et qui sont accessibles aux candidats parce qu'ils seraient des amis, des proches, écoutés, des influenceurs pour nos candidats, un influenceur, comme on dit de nos jours, disons des gens capables de les influencer, cela étant bénéfique pour eux. Alors, campagne donc auprès des personnalités proches, campagne aussi auprès des médias, bien sûr. Alors ça, nous sommes couramment auprès des médias, voilà. Et là, bien sûr, nous leur servons des tas d'arguments que sont souvent les mêmes que nous servons aux candidats, mais il y en a d'autres qui sont propres aux médias, naturellement. Je passe le détail. Alors, nous avons aux candidats, à leurs amis influents et aux médias envoyé 2 choses récemment. 2 choses. Un communiqué de presse, d'abord, du mois de mars, que je vous lis. Un communiqué de presse sur notre thème, évidemment, hein, bien sûr. Et ensuite, un dossier que je vous détaillerai et commenterai. Un dossier explicatif, un dossier nourri sur le fond du problème, le pourquoi, le comment, et après, qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, bien. Donc d'abord, le communiqué de presse. Le communiqué de presse, le voici. Il vient, voilà. Alors, enjeu, il s'intitule « Enjeu » au pluriel de la présidentielle 2027 et langue française. Il est très court, hein, c'est un communiqué de presse qui se veut, comment dirais-je, agressif presque. Il résume la situation et le nécessaire à faire. De 1958 à 1974, on en reparlera de cette date, de 1958, vous savez ce que ça veut dire, 58, hein, c'est l'arrivée de Gaulle au pouvoir après les grandes difficultés de la 4e République. Donc de 58 à 74, la France avait pu réaffirmer avec éclat son indépendance et sa puissance culturelle, politique, militaire, économique. Et oui, on a redressé l'économie et les finances. Et avec quelle promptitude et avec quelle efficacité. Bien, ce qui n'est plus le cas à l'heure actuelle, comme vous le savez. Bon, donc sur le socle pluriséculaire de nos fondamentaux français, de nos fondamentaux civilisationnels, et surtout linguistiques. Civilisationnel, c'est-à-dire l'humanisme, les choses qui sont à base de notre civilisation, une civilisation qui est quand même à dominante chrétienne, même si on n'est plus beaucoup chrétien à l'heure, on reste formé, marqué, à vie, évidemment, par cet humanisme-là, par ce qui a fait aussi la grandeur de la France, qui a été la plus représentative dans cette partie de la chrétienté. Ensuite, donc, voilà, c'était en trois lignes, de 1958 à 1974, la France avait pu réaffirmer, voilà, sur le socle de ses fondamentaux. Deuxième paragraphe du très court communiqué de presse, en 1974, par une conférence de presse à moitié en anglais, le nouvel hôte de l'Élysée, c'était Giscard à l'époque, hein, ne confondons pas, 1974, c'était Giscard. Marqua une brutale rupture avec ses fondamentaux. Il inaugura, c'est ça le principal, il inaugura la détronisation du français et, je dirais surtout même, un demi-siècle de matérialisme mondialiste, de revassalisation corrélative à l'Empire, car de Gaulle nous en avait libéré de la vassalisation, c'est bien clair, mais un demi-siècle à partir de 1974 jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, ça fait 50 ans quand même, hein, plus. Un demi-siècle de matérialisme mondialiste, de revassalisation corrélative à l'Empire, l'Empire américain, bien sûr, anglo-saxon, américain surtout, et d'une offensive de plus en plus efficace, parce qu'il y a en même temps une offensive qu'on n'avait pas lancée sous De Gaulle, mais qu'on a lancé après, on se dit, il faut en profiter, il y a les nouveaux qui sont très, très proches de l'Empire, donc, eh bien, allons-y, il faut nous débarrasser du français rival de l'anglais et nous en débarrasser en France, pourquoi pas. Voilà, donc, cinq lignes pour en 74, etc. En 2026, maintenant, dans le troisième court paragraphe de ce communiqué de presse, en 2026, un nouveau sursaut pour redresser le pays est devenu très urgent. Vous le sentez, Charles Viteur, nous le sentons. Même les médias le sentent, commencent à le dire, commencent à dénoncer ce qui s'est passé. Les fautes aussi, les responsables. Bon, j'en parle pas ici dans le communiqué. Alors, première ligne, donc, un nouveau sursaut pour redresser le pays est devenu très urgent. Ensuite, la présidentielle de 2027 peut et doit être l'occasion de réaffirmer nos fondamentaux culturels par l'engagement par les candidats, d'en donner le signal politique en réintronisant, à peu de frais d'ailleurs, le français en France, en réintronisant le français en France. Le Haut Conseil, alors je termine là, le Haut Conseil a appelé tous les candidats à s'y engager par écrit dans leur programme. Aidez-les, c'est la conclusion du communiqué de presse, aidez-les selon la Constitution, deux points, et je la cite, l'article 2 de la Constitution, bien sûr, la langue de la République est le français. Voilà. Alors, ce communiqué résume bien ce que nous révélons dans un enjeu essentiel, la présidentielle. Donc, voilà. Et maintenant, je vous lis partiellement et commente le fameux dossier envoyé à tous les candidats, personnalités proches et médias pour expliquer l'enjeu, enfin réellement, l'entrée dans le détail. En effet, avant même l'année 2017, qui a été une année que je considère comme relativement funeste, arrivée du pouvoir aujourd'hui en France, 2017, donc bien avant cela, dès 1974, je reviens à cette fameuse date, et l'élection du président Giscard d'Estaing s'est ouverte un demi-siècle dans lequel le pouvoir régalien, c'est-à-dire le pouvoir d'État, ce qui est de la responsabilité fondamentale d'un État, et les principaux médias ont voulu, tenez-vous bien, parce que c'est une réalité qui a échappé à beaucoup, mais une réalité, on a voulu faire oublier aux Français leur histoire, les fondamentaux de leur civilisation, à la fois gréco-latine et judéo-chrétienne, et leur langue, porteuse d'une haute culture. Le but, noyer le pays en Occident. Ah, l'Occident, voilà, l'Occident. Contre lequel, d'ailleurs, le reste du monde, et les BRICS en particulier, se dressent à l'heure actuelle. Mais on voulait nous noyer dans cet Occident-là qui devient maintenant une cible pour le reste du monde. Mais c'est l'Empire Euratlantique. L'Occident, c'est l'Empire Euratlantique, auquel la France s'est remise à appartenir à partir de 1974. Alors l'élection de 2027 peut et doit marquer l'urgent sursaut. Le Haut Conseil international de la langue française et de la francophonie, le HC dans notre langage raccourci, créé le 18 juin 2020, transpartisan, parce qu'il représente tous les... Je l'ai créé d'ailleurs, je le rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, avec un président d'association qui est un communiste, chef d'un mouvement communiste rénovateur, Georges Gastaud. Donc, il est transpartisan, hein, vraiment. Il est fort de ces 38 associations. Nous avons réuni sous ce sigle du Haut Conseil, qui est d'ailleurs informel, ce n'est pas, il n'y a pas de statut, il n'y a pas de cet informel, mais c'est particulièrement actif. Il est fort de ces 38 associations qui s'occupent plus ou moins du français, et 200 personnalités. Alors je joins la liste pour ceux qui sont en écrit, on peut la demander d'ailleurs au secrétariat. Personnalité importante, hein. Il y a des anciens ministres, y compris tout bon. Enfin bref, je passe le détail. C'est des personnalités importantes qui sont dedans. Même des personnalités, monarchiques. Vous avez le comte de Paris. Vous avez du côté bonapartiste, Joachim, si vous préférez, mais Joachim Murat. Murat, et oui, le descendant direct, tous les descendants de Murat ont porté le prénom et portent encore, donc, tous les descendants mâles portent le prénom de Joachim. Voilà. Alors, il a proposé, donc, le Haut Conseil, à tous les candidats à l'Élysée de s'engager fermement, dans leurs programmes et discours électoraux, les discours aussi, les interventions à la télé, etc., à revenir à nos fondamentaux, à sortir de notre vassalisation à l'Empire et à donner le signal, c'est ça qui est important, parce que de quoi ? De réintronisation de la langue française en France. Parce que c'est quelque chose de fondamental, mais c'est en fait surtout, dans ce que je décris là en ce moment, un signal à donner pour le redressement de la France dans les autres domaines, dans tous les domaines. C'est ça qui peut donner le signal. Si les Français, parce que c'est consensuel, la langue française, même chez Mélenchon, par exemple, qui a, ne l'oublions pas, en 2017, il nous avait fait, à sa demande bien sûr, nous lui avions fait de quoi rédiger une charte de la francophonie. Donc, c'est consensuel, la langue française. Donc, le signal à donner pour le redressement, il peut être donné en disant « Regardez, nous remettons la langue française sur son trône. » Là où elle était avant 1974, pendant des siècles, où c'était l'essentiel. J'y reviendrai pour la partie un peu historique là-dessus, pour qu'on comprenne bien. C'est le dossier, hein, n'oubliez pas. Car, j'y viens, pendant des siècles, depuis François Ier et son ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539, c'est lui qui a fait du français la langue officielle du pays, ça n'était pas d'ailleurs au détriment des langues locales ou régionales, c'était simplement à la place du latin, pour avoir une place pour les clercs, tous les clercs, qu'ils soient religieux ou laïcs, tous les clercs de France, les intellos, les chargés de répandre le français et d'écrire en une langue connue, si possible, de tout le monde, eh bien, ça a été ça, l'esprit de Villers-Cotterêts, de l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539. Alors, donc, depuis François Ier, la langue française a été sous tous nos régimes, j'insiste là-dessus, sur tous nos régimes, y compris la République, bien sûr, et y compris la République dans sa phase de 92 à 95, c'est-à-dire la phase la plus terrible de la terreur, justement, la Convention, eh bien même la Convention avait... Ah, je vais tout de suite vous lire quelque chose qui est au bout de mon affaire, mais que je vais retrouver, je pense, rapidement. Attendez, je vais vous retrouver ça. Oui, voilà, ça y est. Et notre envoyé, nous avions un ambassadeur, c'était pas un ambassadeur, ça s'appelait pas comme ça à l'époque, mais en 1793, donc en pleine convention, notre ambassadeur, notre envoyé en Turquie, interrogé en 1793 la convention sur la conduite à tenir à l'égard des œuvres d'enseignement de nos nombreux missionnaires dans l'Empire, parce qu'il y en avait déjà un certain nombre dans l'Empire turc, l'Empire ottoman d'ailleurs, qui était immense. Il était à son apogée à l'époque. Il comprenait jusqu'à la Libye, jusqu'à la Tunisie et jusqu'à l'Algérie, sauf le Maroc. C'était énorme qu'on comprenait l'Arabie Saoudite. Enfin bon, je n'insiste pas là-dessus. L'immense empire ottoman, on a fait d'ailleurs sous François Ier, j'y reviens dans un instant, un accord avec le François, avec le sultan, pour régler la question de nos religieux dans l'empire ottoman justement. Alors, la Convention est interrogée par notre envoyé en Turquie, en 93, sur la conduite à tenir à l'égard des œuvres d'enseignement de nos nombreux missionnaires dans l'Empire. Alors, il reçoit une réponse, laquelle ? Une réponse lapidaire, dans le style de la Convention, mais écoutez, le citoyen, on ne l'appelait pas d'un titre de diplomatique, etc. Il était citoyen comme les autres à l'époque. Hein. Donc le citoyen Semonville, c'était son nom, notre ambassadeur, le citoyen Semonville n'oubliera pas qu'en Orient, le catholicisme, c'est la nation. Il ne faut pas oublier que c'était une époque où l'on faisait des tas de choses très vilaines aux religieux. Bon, voilà. C'était. Bon, j'y reviendrai dans une autre circonstance. Voilà donc. Je me retrouve mon papier. Voilà. Un accord, d'ailleurs. Cette langue française, elle a été sous tous nos régimes, je viens de le dire, de l'illustrer même, au cœur aussi de notre politique intérieure, bien sûr, puisque ça servait à solidifier l'unification du pays, qui avait plusieurs langues locales, évidemment, qui en a toujours, d'ailleurs. On ne les a pas complètement rayées. Elles revivent en partie, péniblement, mais elles existent toujours. En tout cas, à l'époque, c'était très important, les langues locales et régionales. Alors, le français jouait donc un rôle politique, mais majeur dans la politique intérieure du pays. Et au cœur aussi de la politique, et c'est ce qu'il faut bien comprendre, chers auditeurs, dans vos discussions que vous aurez avec tel ou tel, si possible avec des candidats, si certains d'entre vous en sont proches, eh bien au cœur aussi de la politique extérieure de la France, qui était surtout à l'époque la fille aînée de l'Église, n'oubliez pas, la fille aînée de l'Église. Eh bien, un accord a été conclu entre François Ier, le grand roi, et le pape. Et cet accord confié à la France, et à la seule France, pas à l'Italie, ni à l'Espagne, ni etc. Pourtant, il y avait aussi des religieux expatriés. Hein. Bon. Mais c'était la France la plus puissante. Bon, accord donc pour lui donner à la France l'exclusivité de la protection des chrétiens d'Orient. C'est encore à l'heure actuelle. L'une des raisons, n'oubliez pas, chers auditeurs, qu'est-ce qui se passe au Liban à l'heure actuelle? Mais on est en train de vous ressortir l'argument, excusez-moi, j'ai 91 ans, il m'arrive encore de faire des petits trucs qui vont pas bien. Bon, ben oui. Alors, le Liban, pays chrétien éminemment, où la chrétienté est en face à beaucoup d'autres choses, si vous voulez bien, et pas seulement à l'islam. L'islam classique, et l'islam, il y a des tas de formes d'islam. Il y a des chiites comme des sunnites, il y a des autres nuances, si vous voulez, de religion au sein de la chrétienté, au sein du Liban, y compris d'autres nuances de chrétienté. Bien. En tout cas, exclusivité de la protection des chrétiens d'Orient, on nous ressort ça, à juste titre, à l'époque, parce que c'est toujours la France qui est censée faire la protection des chrétiens d'Orient. Eh oui. Alors, la France devint à ce moment-là, à partir de cet accord, la plus grande pourvoyeuse mondiale de missionnaires catholiques romains. Parce qu'il y a les autres, il y a les protestants. On a eu des protestants, mais après 1822 seulement. Mais à partir de cette époque-là, de François Ier, la France est devenue la plus grande pourvoyeuse mondiale, même face à l'Espagne et ses missionnaires en Amérique, etc., en Amérique latine, ou les autres, hein, les autres chrétiens, les autres États chrétiens, la France est devenue la grande pourvoyeuse. En 1885, une des statistiques avait été donnée, la moitié des missionnaires catholiques envoyés hors de leurs frontières nationales étaient français. Ça vous dit quelque chose? Voilà. Alors l'État, lui, a toujours subventionné leurs écoles en français, y compris discrètement, je fais allusion là maintenant à la période laïque de notre histoire, laïciste à outrance, que fut la période de 1900 et quelques jusqu'à 1907, disons 1906-1907. C'était l'époque, n'oubliez pas, des Paulbert, de Combes, de Delcassé, hein, qui étaient les chefs de cet État laïque, laïcard, qui faisait, n'oubliez pas, à l'époque, la séparation en 1905 de l'Église et de l'État. C'était énorme. En 1906, ils chassaient de France les congrégations religieuses. Chassés de France. Eh bien, par la même occasion, ils continuaient discrètement, c'était dû en même temps de l'époque, à subventionner nos écoles religieuses à l'étranger, c'est-à-dire notre action chrétienne à l'étranger, dans les pays où l'on protégeait les chrétiens. Voilà, c'est énorme ça quand on y pense, il faut le savoir, hein. Il faut le savoir. À cette époque-là, on savait ce qui était essentiel pour la France, à l'extérieur en tout cas, sinon à l'intérieur. Bien, ensuite, eh bien, en somme, loin d'être une orientation parmi d'autres, le soin pluriséculaire du français a été une dimension essentielle, primordiale, de tous nos gouvernements jusqu'en 1974. Alors, il y avait plusieurs raisons, hein, qui coïncidaient, mais il y a un Bobino, je vais vous le dire, mais d'abord le Bobino, ça y est, il m'a fait son petit signe avec le Bobino. Vous avez le Bobino, chers auditeurs.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Donc une dimension primordiale de tous nos gouvernements jusqu'en 1974, il y avait plusieurs raisons. Il y avait d'abord, il ne faut pas l'oublier, il n'y avait pas que la religion religieuse, la raison religieuse, il y avait le besoin de grandeur rayonnante de nos monarques et oligarques, y compris républicains. Un besoin de grandeur rayonnante, ça satisfaisait leur ego. N'oubliez pas, le roi soleil, on l'appelait comme ça parce qu'il faisait ça, parce qu'il misait beaucoup sur le rayonnement intérieure et extérieure, le roi Soleil, mais il ne fut pas le seul. Alors ça, c'était le premier élément, mais aussi l'ordre d'éléments, forte aide sous tous nos régimes à l'expansion chrétienne extérieure. Voilà, alors vous l'avez. Vous avez les exemples, le pays des laïcis, la période des laïcistes, 1906, et puis la Convention. Je vous ai donné les exemples. Et puis, il y a eu aussi, à partir de Louis XIV, cette fois, le rôle longtemps dominant du français langue diplomatique. C'est surtout sous Louis XIV, à partir d'un traité particulier, dont le nom m'échappe parce que je suis vieux maintenant, mais c'est terrible, je l'ai su. En tout cas, l'un des traités signés sous Louis XIV, où ça a répandu, si vous voulez, ça a affirmé le français comme langue diplomatique. Et le règne de Louis XIV, vous le savez, c'était jusqu'en 1715. Donc, et puis après encore, dernier élément important, la politique coloniale, liée d'ailleurs aussi à la politique religieuse et à la politique des chrétiens, mais politique coloniale, au XIXe siècle surtout, et surtout en Afrique, critiquée de nos jours, en partie légitimement, c'est évident, mais pas au point où certains voudraient la critiquer, mais non génocidaire, au moins elle, plus humaine et assimilatrice que d'autres, enseignant le français, et de plus en plus, dans nos colonies, c'était plus des religieux, c'était des laïcs qui enseignaient le français dans les écoles, qui étaient laïcs d'État, de coloniaux. Bon. Alors, les Français étaient peu au courant de tout ça, hein, pendant que ça se passait, hein, de ces riches leviers de puissance. Ils savaient vaguement, on ne leur disait pas trop d'ailleurs, hein, et au fait, ça c'était un bain dans lequel ils vivaient, comme le fait dans de beaux paysages de France, hein, dans toutes ces régions. Mais là aussi, eh bien, les leviers de puissance, ils allaient d'eux-mêmes, comme on dit, ça va de soi. Bon. Alors, on a même pu, comme ils en étaient peu conscients, lorsque c'est une époque, jusqu'en 1974, c'est une époque. On a même pu leur faire oublier, dans ce domaine du français, la brillante époque, la plus brillante encore dans la modernité, la brillante époque 58-74, où à l'intérieur, par exemple, on a fait la première loi protégeant le français de l'anglais. En fait, elle était de 75 et pas de 74, mais elle a été faite avant. Bon. Et avec des gouvernements qui suivaient immédiatement après 74, enfin des administrations qui habituaient à suivre la voie d'avant 1974, y compris sous Giscard. Ils ont été progressivement éliminés et remplacés par des giscardistes, mais quand même, voilà. Donc cette loi a été faite sous avant 1974. Et à l'extérieur, ça a été cette grande époque de Gaulle-Pompidou. Hein. Pompidou, c'était 69-74. C'est ça, 69-74. À l'extérieur, donc, apogée, une véritable apogée, parce que c'est là que l'on a forcé sur l'aide à l'action extérieure de l'État en matière culturel. Et oui, en s'appuyant naturellement sur les colonies, mais en dehors des colonies, partout, y compris une politique en Amérique latine de soutien du français, de soutien en Amérique, soutien bien sûr en Europe même. Et ça fonctionnait, c'était partout comme ça, nos ambassades. J'ai connu cette époque, j'y étais, j'étais conseiller culturel et scientifique à l'époque. C'était une époque où on se sentait vivre. Apogée de la politique culturelle d'État et la politique de coopération pour le développement, parce que j'ai aussi travaillé, je la connais bien, parce que j'ai aussi travaillé pour le ministère de la coopération, à l'île Maurice et au ministère. À l'île Maurice, mais c'était un plaisir de faire l'action culturelle à Maurice à cette époque-là, parce que les Anglais se dégageaient de East of Suez, c'était leur politique. Ils se dégageaient culturellement aussi de la politique East of Suez, pendant un moment en tout cas, hein, les Anglais. Les Américains ont pris le relais après. Mais donc, à l'île Maurice, par exemple, qui était certes d'origine française, mais anglicisée pendant longtemps, depuis 1810, eh bien, après son indépendance, il y a eu une politique forte de coopération avec l'île Maurice, parce que les indigènes de l'île Maurice, les indigènes, c'est-à-dire surtout les anciens esclaves d'origine africaine, et puis même les gens qui ont remplacé, sous les Anglais, qui ont remplacé les esclaves, qui s'appelaient, c'était d'autres esclaves, mais ils s'appelaient simplement des coolies, plus ou moins très peu rémunérés, mais ils n'étaient pas dans des familles, ils étaient finalement aussi pauvres qu'avaient pu être les esclaves. Voilà. Très bien. En tout cas, nous avons pu mener là, l'île Maurice en était un exemple, une politique très fructueuse. Voilà. Donc, inutile d'insister sur le sursaut français qui a été lancé en 58 avec l'arrivée du général. La France de 58-74 avait retrouvé la vraie grandeur. Et la puissance politique, économique, avec tout ce que vous connaissez. Elle était en fait au quatrième rang, on l'a placée au quatrième rang des puissances mondiales. Aujourd'hui, vous le savez, nous sommes plus de deux fois plus bas que ce quatrième rang. Voilà. Bien sûr, il y a des circonstances qui l'expliquent à l'extérieur, la montée de la Chine, tout ça. Évidemment, on n'aurait pas pu rester à ce niveau-là, bien sûr. Mais quand même, ça fait une différence terrible. Alors, à la suite de ça, à la suite de 1974, les dirigeants qui sont venus avec Giscard d'Estaing, certes peu gaulliens, ont donc pu agir à leur tour sans craindre une contestation générale. Agir, pourquoi ? Pour faire oublier de nouveau, pour faire oublier la brillante époque qui venait de s'écouler. Et donc lancer ce que je vous ai dit, le demi-siècle d'asservissement. Alors, dès 1974, Giscard put effectivement là annoncer l'avènement de cette fameuse époque, de cette vraie modernité, plutôt américaine, en partie en anglais, dans sa première conférence de presse, sans déclencher un tollé. Les gens étaient comme un peu, engourdis, habitués finalement à leur tour à cette période intéressante où on n'était pas en déficit, etc., enfin tout ce que vous savez. Bien, donc ils ne se sont pas aperçus tout de suite du changement de régime. C'était une véritable révolution non dite, en douce, mais en douce, édulcorée, banalisée, dans les médias aussi, et dans les médias qui ont très vite été d'ailleurs aux ordres. Voilà. Alors, Giscard, on s'en rendait pas bien compte, mais il détrônait le français et il ouvrait le demi-siècle dont je vous ai parlé. Voilà. Il préfigurait aussi la période à l'intérieur de notre demi-siècle, mais à la fin de ce demi-siècle, période plus récente que nous connaissons d'une manière brûlante, depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, la plus funeste pour les institutions du français, subissant un démantèlement régalien. Je vous l'ai dit déjà dans nos précédentes émissions, je le rappelle simplement brièvement, notre Haut Conseil l'a dénoncé dans sa lettre ouverte du 2 septembre 2024, adressée à l'Élysée. Cette lettre fustigeait l'imposition illégale par l'alliance Leyen, von der Leyen, bien sûr, l'impératrice de l'Europe à l'heure actuelle, l'alliance von der Leyen-Macron en 2020, post-Brexit, c'est-à-dire au moment où les Anglais partaient, on s'est dit on ne va tout de même pas laisser partir l'Anglais avec les Anglais. Alors post-Brexit, l'imposition illégale de l'anglais, seule langue commune, alors que c'était complètement illégal vis-à-vis des institutions européennes, complètement illégal par rapport au traité de 57, mars 57, créant l'Union européenne, sur la charte des droits fondamentaux, illégale aussi en ce qui concerne la législation sur les langues, voilà. La législation sur les langues, mettant toutes les langues officielles, toutes les langues de l'Europe, et mettant trois langues de travail de fait, c'est-à-dire l'anglais, l'allemand, le français. Mais c'était à l'époque d'abord le français, ensuite l'anglais et ensuite l'allemand. Vous savez que c'est complètement renversé à l'heure actuelle et de très loin. Bon, donc lettre fustigeant tout ça, fustigeant aussi les JO de Paris, le traitement par la France, des JO à Paris, chez elle, en 2024. Qu'est-ce qui s'est passé là? Le statut du français, langue olympique officielle à l'écrit, eh bien, qui existait dans les textes et qui existait dans les faits lorsque, voilà, il fallait traduire, eh bien, ça a été bousculé complètement par le gouvernement qui a suivi le COJO, c'est-à-dire le comité d'organisation des Jeux, qui a mis à l'écrit, bien, parce qu'à l'oral, bien sûr, les gens qui suivaient la télévision, ils suivaient ce qui se parlait à l'oral, c'était quand même largement du français. Mais tout ce qui était écrit, le résultat des courses, les noms des bateaux quand on les fait défiler sur la Seine, c'était les pancartes qui étaient du côté des caméras, tout le monde n'a vu défiler les bateaux des délégations sur la Seine à l'ouverture que côté anglais. Voilà, tout cela. Donc, le français, langue officielle à l'écrit, a été aboli par le gouvernement français, de fait, bien sûr. Voilà, vous le savez, c'est un crime. C'est un véritable crime contre notre langue et contre notre politique extérieure et intérieure. Plus insidieux encore, j'ai un autre exemple. Vous savez que M. Macron, et nous l'en avons remercié officiellement, j'y reviens, M. Macron a, dès 2017, dans la foulée de son « en même temps », il a fait sien, dès 2017, ce que tous ses prédécesseurs avaient refusé. Nous avions, en 2001, lancé notre projet de Villers-Cotterêts. Parce que c'est nous qui l'avons lancé, ce projet, avec tout un dossier de ce qu'il fallait faire pour faire de Villers-Cotterêts, le château de François Ier, prestigieux château, qui a été au XVIIIe siècle, avec le duc d'Orléans et sa femme, la princesse Palatine, un deuxième centre de rayonnement après Versailles, dans toute l'Europe. Villers-Cotterêts, le château de Villers-Cotterêts. Bien. Et puis ensuite, qu'il est tombé en déshérence, en ruine, etc. Heureusement, on l'a conforté pour le conserver. Et nous avions dit, nous, en 2001, il faut en faire le château, ce château de Villers-Cotterêts, il faut en faire le château de l'Institut international de la francophonie, particulièrement actif, si possible, avec le programme que nous mettions sur le papier. Bon, alors eh bien, M. Macron a, y compris dans ses discours, en 2017, parce que c'est en 2017 qu'il a repris notre projet, parce qu'on l'avait asséné, on l'avait aussi saisi Mme Macron, c'est en partie grâce à Mme Macron d'ailleurs, sans doute, que je crois, et le genre de lettre qu'on lui a faite, en lui rappelant d'ailleurs que mes petits-enfants avaient été ses élèves, mais ça c'était un détail simplement, et mes petits-enfants aimaient beaucoup leur prof, Mme Macron. Bien, en tout cas, Mme Macron et M. Macron ont fait notre projet, ils l'ont annoncé, y compris en 2018, dans une conférence de presse sur le français et la francophonie faite par M. Macron à l'intérieur de l'Académie française, s'il vous plaît, hein, le jour mondial de la francophonie, le 20 mars 2018, en reprenant nos têtes de chapitre du projet que l'on lui avait remis. Vous voyez ? Et puis, nous savions très bien que ça allait être du pipeau, et effectivement, Il s'est passé ce que nous craignions naturellement. Mais c'était afficher quelque chose sur le plan de la langue française et de la francophonie qui allait contrebalancer les crimes qu'il a commis pour le français en même temps, si vous voulez. Voilà. En effet, dans la réalité, l'Institut a été réduit à un simple musée, d'ailleurs très beau, très bien fait, mais 2000 mètres carrés seulement sur les 23 000 mètres carrés de surface utile du château que nous voulions utiliser pour notre institut international. Un musée, un simple musée, c'est tout. Le reste est vide. Le reste est vide. Tout est bien restauré, y compris les communs du château, bien sûr, dans un parc d'ailleurs magnifique, qui donne directement sur la forêt de Retz. C'est pour ça que ça s'appelle Villers-Cotterêts. Voilà. Or, la seule est très modeste, écoutez bien, la seule est très modeste institution internationale qu'on y a introduite dans ce château, et par l'idée de la Commission européenne, adoptée par M. Macron, tenez-vous bien, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'était une alliance pour la technologie des langues. Ah très bien, bah oui, le château, le Villers-Cotterêts, pourquoi pas, tiens, les langues, la langue française, etc. Oui, mais écoutez, il est très peu de temps après, paru dans la presse des articles disant, des appels d'offres pour chercher le directeur de cette nouvelle organisation de linguistique, si vous voulez. Et il était écrit dans ces textes, dans cet appel d'offres pour le directeur, la langue de travail sera l'anglais. À Villers-Cotterêts, chers auditeurs. Voilà, un pied de nez formidable. Un cynisme, une faute morale, un cynisme ricanant. Voilà, alors auto-effacement de nos fondamentaux, de notre langue, de notre culture, engourdissement, et maintenant, nous y sommes de nouveau dans une période d'engourdissement. Donc, on arrive à ne pas très bien comprendre ce que nous disons maintenant, et même nos élites qui ont une faible culture, les élites qui sont toutes formées pendant ce demi-siècle de vassalisation d'effacement de nos fondamentaux, eh bien, ils ne comprennent pas ce que l'on veut dire pour la plupart d'entre eux. Alors, nous le faisons en répétition, nous allons le faire, nous avons encore un an, nous allons continuer pour faire admettre ça, que le français a réintronisé, c'est un point fondamental, et c'est en même temps le signal qu'il faut donner par consensus, parce qu'il y aura consensus sur le français. Par consensus, le signal, faute de nouveau général de Gaulle, comme en 1944 ou en 1958, faute de nouveau général de Gaulle, il y aura au moins ça, le signal de réintronisation de la langue française. Bien, remise sur son trône, et le signal du redressement général. Voilà, ça aidera, psychologie collective aidant, ça aidera à l'élan nécessaire pour faire un renouveau qui est devenu très, très, très urgent dans la révolution. La langue revient donc un instrument stratégique, une langue d'affluence, de création et de progrès, active dans les sciences et la révolution numérique, l'économie, la diplomatie, les arts. Nous devons appliquer sans faille l'article 2 de notre Constitution. Rétablir pleinement la langue de la République à tous les niveaux de l'enseignement et de la formation. La rendre à nouveau obligatoire, si on le peut, en essayant avec nos amis, mais qui n'ont pas non plus beaucoup d'influence là-dessus actuellement, nos amis au sein de l'Union européenne, pour la rendre obligatoire dans les institutions européennes. Relancer vivement la francophonie internationale, ça dépend surtout de nous, de la France. Renforcer notre aide au développement, parce que nous l'avons toujours, l'aide au développement. et généralement quand même encore en français dans les pays africains de langue française. Bon, voilà, alors avec une très forte priorité aux pays francophones d'Afrique. Il faut les aider davantage. C'est un élément fondamental de notre politique, sur la base aussi, eh bien, de la langue française. Vous l'avez, ça y est, vous avez compris, chers auditeurs, surtout qu'il y a de nouveaux éléments. J'ai combien de minutes encore ? J'en ai 6, c'est formidable. Plusieurs éléments, plusieurs arguments que nous pouvons employer vis-à-vis des candidats, vis-à-vis des médias, vis-à-vis, etc. En plus de ceux qu'on a, de tous ceux que je vous ai dit, voilà. Et il y a d'ailleurs des signes que les BRICS, vous connaissez les BRICS, ça s'appelle BRICS, c'est les BRICS, hein, les pays, les grands pays d'ailleurs, hors empire, empire américain, c'est-à-dire le Brésil, c'est-à-dire l'Argentine, c'est-à-dire la Chine, c'est-à-dire l'Inde, c'est-à-dire, vous voyez, bon, très bien. Les BRICS attaquent de plus en plus le règne de l'anglo-américain. 3 exemples. En Afrique du Sud-Ouest, l'Angola, qui est une ancienne colonie portugaise où on parle la langue officielle le portugais, l'Angola de langue officielle portugaise, voisine de nos deux Congos francophones, le Congo Brazza et le Congo Léo, Léopoldville, enfin, ça s'appelle maintenant la RDC, la République démocratique du Congo, l'énorme, le pays le plus important francophone en dehors de France, d'ailleurs, le Congo, 100 millions d'habitants, 100 millions. Ils ne sont pas tous francophones, bien sûr, mais il y en a une bonne partie. Alors, l'Angola décide de mettre dans son enseignement primaire le français obligatoire. Le français obligatoire. Deuxième langue, certes, mais obligatoire. C'est un signe quand même qui rompt avec tout ce que nous entendons par ailleurs et qui est effectivement catastrophique dans la plupart des cas. Ensuite, l'Organisation internationale de la francophonie, dirigée par l'ancienne ministre rwandaise. Le Rwanda est une ancienne colonie, donc francophone, mais belge. Mais les Belges travaillaient en anglais, pas en flamand, au Rwanda, en français bien sûr, et pas en flamand. Voilà, notamment parce que les religieux étaient surtout francophones. Bien, mais alors, l'organisation internationale dirigée par l'ancienne Madame Mushiki Wabo, ministre des Affaires étrangères du président Paul Kagame, vient de publier son dernier rapport sur le français dans le monde, le nombre des locataires, c'est un rapport sérieux, hein, c'est un rapport sérieux. Le nom, il est suivi d'ailleurs chaque fois qu'il paraît, tous les quelques années, le nombre des locuteurs dans le monde de français divers, hein, que ce soit maternel, apprise, officiel pratiqué, etc., se monte maintenant à près de, tenez-vous bien, 400 millions. Ça veut dire que nous sommes passés au quatrième rang avec ex aequo, mais non plus au septième, comme nous l'y étions encore il y a 7 ans, il y a 6 ans, je crois, la dernière. Voilà. Et il y a la Chine qui supprime l'enseignement obligatoire de l'anglais, progressivement bien sûr, dans certains établissements de formation. Et elle est de plus en plus suivie par la plupart des BRICS. Bon. Alors voilà, il y a donc une chose extraordinaire sur laquelle nos candidats sont amenés à sauter, comme on saute sur un cheval, sur un bel alezan qui piétine, qui piaffe. Il faut sauter dessus, disons-nous à nos candidats. Sauter sur ce bel alezan-là, vous avez ce qu'il vous faut. Et autres arguments nouveaux, c'est l'Amérique elle-même. L'Amérique qui se distance de l'Europe, qui méprise l'Europe, qui moque nos dirigeants, non seulement Merz, mais aussi notre Macron des familles, j'allais dire non, il n'est pas le Macron des familles, mais notre Macron, notre président, moqué par Trump. Bon, voilà, eh bien, l'Amérique se détache, elle se désengage, et ça je crois que c'est définitif, de la protection atomique et générale de l'Europe. Elle, elle, Et ça fait une réaction des Européens qui se disent « mais il faut que nous regardions vers l'Europe, non seulement l'Europe institutionnelle à constituer, à renforcer, alors qu'elle bat de l'aile en ce moment, il faut qu'on regarde quand même ça, et puis en tout cas, chacune de nos nations. La nation allemande, qui va devenir bientôt la plus grande armée d'Europe, parce qu'elle fait un réarmement énorme, et que ce soit la France avec sa force de frappe, qui intéresse d'ailleurs les voisins, mais on ne devrait la réserver qu'à nous-mêmes, etc. Vous voyez tout ça qui se passe. Il y a donc, chers auditeurs, il faut que vous saisissiez tout ça pour vous-même, vous faire les prêcheurs, les propagandistes de la réintronisation du français en France. Dites ça à vos élus, à tous les gens que vous pouvez... vous pouvez saisir pour donner ce signal, le signal du redressement malgré l'inculture générale. Cultivez les gens autour de vous, expliquez-leur que c'est très urgent. Faites ça partout où vous le pouvez. Voilà, pour la politique intérieure, pour la politique extérieure de la France. Amis auditeurs, vous savez ce que vous avez à faire maintenant. Courage, merci d'aider la France. Merci à notre ami là. Qui a fait cette émission avec moi. Merci. Bonne fin de Pâques. Bonne fin de Pâques. Merci à vous tous d'avoir écouté et d'agir. Tous, chers auditeurs.
Vous venez d'entendre Le Français en partage, dirigé par Albert Salon, diffusé en direct sur Radio Courtoisie lundi 6 avril 2026 de 10h à 11h et réalisé par Arnaud. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission, commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.